Chapitre 8. Le marquis de la Galoche, dont le vrai nom était Jules Bernard, appartenait à une famille honnête et riche qui ne négligea rien pour lui donner la plus parfaite éducation. Mais ce fut argent perdu. Sa paresse, sa légèreté, son insubordination le firent successivement exclure d'une foule de collèges qu'il traversa, n'apprenant dans chacun que cela seulement dont il eût dû bien se garder. Méchant tour, mauvaise farce, laide grimace et contorsion. Il était d'autant plus coupable en cela qu'on le savait doué des plus heureuses dispositions, que sa mémoire était fidèle et son intelligence prompte et grande. Il eût donc pu, le voulant bien, tirer de la moindre application un excellent profit. Mais non, et ses objets d'étude, même les moins arides, il les tournait en dérision. Il n'apprit du dessin qu'à faire de mauvaises charges, de la musique qu'à jouer du violon d'une façon baroque, de l'équitation qu'à chevaucher à rebours et la tête tournée du côté de la croupe, de tout, enfin, que la parodie de tout. Mais ce qui, bien plus encore, lui méritait le blâme, c'était un esprit de turbulence qui le portait à fomenter sans cesse de petits complots de dortoir, de réfectoire ou de salle d'études, et faisait de lui le chef inévitable, le grand Catalina de toute insurrection scolastique. Vous pensez bien qu'après 10 ans employés de cette manière, il devait être non moins ignorant que le premier jour. Ses parents, abusés, l'envoyèrent ensuite étudier le droit, qu'il étudia comme il avait fait le latin, le grec, l'histoire, les mathématiques. Ses journées et ses nuits, il les passait dans les cafés, dans les estaminets, dans les maisons de jeu, de telle sorte qu'après 3 ans de cours, il s'entendait à exécuter un carambolage beaucoup mieux qu'une thèse. Ce fut le plus sot avocat que posséda la France, ce qui ne fait pas son éloge. Mais en revanche, disait-il en riant, il était le plus fort joueur de cartes, le plus grand perdeur de temps, le plus inutile viveur que posséda Paris, ce qui non plus n'était pas loué Paris. Jusque-là, cependant, la bourse de son père, qu'il trompait, le malheureux, sur la perversité de ses penchants, avait suffi à défrayer ses premiers débordements. L'argent qu'on lui envoyait pour acheter des livres et payer ses inscriptions, il le mangeait à rester ignare. Les sommes destinées à son nécessaire, il les gaspillait en superflu. Il dissipait tout, même le prix de ses hardes qu'il vendait ou mettait en gage, même son avenir qu'il escomptait follement en emprunt usuraire. Jules Bernard emprunta 3 000 francs à un infâme grugeur. Vous croyez peut-être qu'il reçut les 3 000 francs promis ? Point. L'usurier lui compta 200 francs en espèces, puis lui remit, en valeur du surplus, pour 300 francs de bonnets de coton, 250 de tire-bouchons, 175 de fil d'archal, 187 de flageolets, 125 de sirop de guimauve, 147 de bas de filocèle, 153 de manches à balai, 57 de petits serins savants, 142 de pelles et pincettes, 133 de béquilles, 435 de toiles pour paillasses, 450 de divers objets de quincaillerie, tels que couteaux, ciseaux, porte-mouchettes, aiguilles, fer à repasser, etc., et enfin pour 690 de souricières en bois, tous objets de hasard qu'il racheta de l'emprunteur immédiatement à 3/4 de perte, pour les porter sans doute à d'autres dissipateurs, et les racheter d'eux-mêmes. Ces divers objets, y compris les 200 francs en espèces qu'il avait comptés à Jules Bernard, produisirent un total d'à peu près 900 francs, sur lesquels il retint en outre, pour les intérêts à échoir, 355 francs 75 centimes. Resta donc, pour le futur marquis de la Galoche, la faible somme de 544 francs 25 centimes, en échange de laquelle il remit au vieux fripon, qui le voulut ainsi sous prétexte des éventualités de non-remboursement qu'il avait à courir, un billet de 20 000 francs. Oui, un engagement de 20 000 francs contre 544 francs 25 centimes, seule valeur qu'il eût vraiment reçue. Ce ne fut pas la seule fois qu'il convertit, pour ainsi dire, en mauvaises actions, en folies de toutes sortes, les sueurs, l'éveil, les sages économies de son père. Mais vint enfin la fatale échéance des promesses qu'il avait souscrites, vinrent les poursuites judiciaires, et vint alors pour son vieux père l'entière révélation des désordres de son fils. La colère du vieillard fut vive, d'autant plus que son indulgence avait été plus longue. Il refusa obstinément de réparer tant d'irréparables folies. C'eût été mal que l'essayer. Il est des fautes que le châtiment seul peut effacer, et non plus le pardon. Le futur marquis de la Galoche fut donc mis en prison. Il y demeura les 5 ans de rigueur, au bout desquels il se trouva sans ressources, sur ce pavé de Paris d'où, au temps de sa fameuse opulence, la roue des tilburies d'emprunt avait tiré de si fugitives étincelles. La faim alors le força de prendre quelque état. Il en essaya 20. Son ignorance, son humeur revêche et sa fainéantise le rendirent impropre à tout. Enfin, ne sachant plus quoi tenter, honni partout, misérable, affamé, vagabond, méprisé même, pour comble de mépris, de tous ceux qu'il méprisait lui-même, il fit la rencontre de la célèbre Lamèche, la reine soi-disant des îles Salmigondi, reine aux yeux louches, à la voix rauque, aux cheveux roux, à l'épaisse encolure, dont la robe blanche à corsage rouge, brodée de paillettes de cuivre et à taille montant jusqu'au milieu du dos, faisait bien l'être le plus disgracieux de toute la création. Cette étrange créature, mes amis, était encore une vivante et triste preuve de tout ce qu'ici-bas l'on sacrifie d'estime, de repos, de bonheur véritable à quitter le sentier facile de la vie ordinaire pour se jeter à l'aventure dans les 1000 chemins d'une existence désordonnée. Issue d'une pauvre et honnête famille, Mariette, c'était son nom avant qu'elle se fût de ses mains couronnée du burlesque diadème des îles Salmigondi, Mariette eût pu vivre décemment en se fiant, pour vivre, aux labeurs habituels des femmes de son état. Mais point, elle était impatiente de ses travaux modestes. Elle rêvait quelque chose de moins obscur que le toit domestique, quelque chose de moins arrêté, de moins symétrique, de plus tumultueux que l'existence commune. La vie nomade, la vie indécise des saltimbanques, ces bohémiens de notre âge, séduisit sa folle imagination. Elle partit. Pour où ? Pour le hasard. Le montreur de curiosité qu'elle avait épousé, le surnommé Gallimafré, fut dévoré bientôt après son mariage par un jeune ours qu'il s'était donné beaucoup de peine à apprivoiser. C'était un de ceux dont la peau fait maintenant encore l'ornement de la ménagerie. Ce fut peu de temps après que sa veuve inconsolable rencontra Jules Bernard par de grands chemins. Jules Bernard, qui se nomma dès lors marquis de la Galoche, épousa tout, veuves et animaux. Voici bientôt 10 ans qu'il vit avec la soi-disant reine des îles Salmigondi, en une douce communauté de tours de force, lui expliquant ses bêtes au badaud, faisant des tours de gibecière et mangeant des verres à boire sans être incommodé. Elle, dansant sur la corde, soulevant des quintaux avec ses dents et avalant des sabres. Lui, ayant apporté en ménage, pour sa part, un verbiage inépuisable et un estomac à toute épreuve, elle ayant apporté pour dot sa ménagerie et un gosier d'une étonnante complaisance. Tous deux enfin se querellant, s'injuriant, se détestant, battant leurs bêtes, battant leurs enfants et se battant l'un l'autre. Triste existence, mais juste châtiment. Tels étaient, mes jeunes lecteurs, les deux illustres chefs de cette misérable troupe où Jean-Paul et Petit-Jacques ne craignirent pas de se fourvoyer. J'ai cru indispensable de vous communiquer ces renseignements préliminaires afin de rendre plus intelligibles les nombreuses aventures qu'entraîna pour eux leur coupable imprudence.